Voilà, nous bénissons Dieu pour sa grâce. C'est lui qui conduit nos vies. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au commencement de nos journées et c'est lui qui nous aide à les achever aussi. Nos débuts de mois sont entre ses mains et la fin de nos mois aussi. C'est des petits détails, mais Dieu se plaît à être avec nous dans les détails de nos vies. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour cette louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le véritable. Tu es notre Dieu. Ton amour est grand. Tu es plein de bonté, lent à la colère, et ta miséricorde est toujours disponible. Que ton nom soit béni. Merci pour ce temps où tes enfants se sont réunis, ici ou chez eux, pour communier avec toi, communier en tant qu'Église, t'adorer, te célébrer. Et t'entendre nous parler, Seigneur. Nous nous disposons. Merci de nous conduire. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Et que sa grâce, par son esprit, nous aide chacun et chacune à saisir ce qu'il veut nous dire ce matin. Voilà bientôt plusieurs semaines que nous méditons ensemble dans ce livre d'Apocalypse. Et nous en sommes au chapitre 9. Le dimanche passé, nous avons vu ce paragraphe qui part du verset 1 au verset 12. Et nous avons vu l'image puissante, surnaturelle, terrifiante, destructrice de celui qui est appelé Abaddon, Apollyon, le prince des abîmes, Satan. Dans cette vision, Jean a vu cette étoile qui tombait du ciel. Et cette étoile, cet ange déchu, a libéré des forces d'un puits, du puits de l'abîme. Et les images que Jean a vues dans sa vision nous ramenaient au diable, à Satan, à cette cohorte de démons déchaînés pour faire du mal. Dans ce combat spirituel, la guerre spirituelle, faire du mal aux incroyants, aux non-chrétiens, parce qu'ils sont sans défense devant lui. Jésus, dans l'évangile de Luc, a déclaré « Or, je voyais Satan tombé du ciel comme un éclair. » Et on va voir que plus loin, dans le chapitre 12, Jean va dire la même chose. Il va voir le diable précipité du ciel. Le terme ici, tomber, chute, est la matérialisation de sa défaite à la croix. Même si ce combat spirituel est terrifiant, est destructeur. J'ai rappelé que tout ce qui est dit du diable dans le Nouveau Testament est toujours destructeur. Il est descendu pour tuer, pour égorger, pour détruire. Et même Si la Bible nous dit que sous l'apparence de l'ange de lumière, il peut tromper, il peut être rusé, il peut être malin, au bout du bout, c'est toujours pour détruire, toujours pour faire du mal. Un certain commentateur Hugues a dit, l'influence démoniaque qui s'exerce sur les gens qui rejettent Dieu engendre immoralité, corruption, violence, barbarie et tous les autres vices qui sont cause de bien de souffrances, de bien de tourments, de bien de tortures. Jean souligne pourtant dans toute la lecture que nous avons faite dans cette vision que les croyants, les chrétiens sont préservés. Ils ne sont pas à la cible de cette destruction parce qu'il est dit clairement dans le texte qu'il leur donne un ordre de ne pas toucher à ceux qui portent la marque de Dieu sur leur front. Et dans le chapitre 7, nous avons bien vu que ceux qui portent la marque de Dieu, les 147 000 et toutes les myriades et les myriades, sont des enfants de Dieu, rachetés. Il est doux, il est agréable que des hommes se mettent sous le regard de Dieu en Jésus-Christ, car c'est là qu'est leur protection, c'est là qu'est leur assurance, c'est là qu'est leur victoire, c'est là qu'est leur sérénité. Voulons-nous continuer d'être sereins dans ce combat que nous ne voyons pas en tant qu'être humain, parce que notre humanité nous limite la vision de l'invisible. Et c'est pas parce que nous ne voyons pas que cet invisible n'existe pas. Jésus, dans son ministère terrestre, en tant que 100% homme, a confronté cet invisible. Parce que lui, en tant que Dieu, les voyait. Et eux, ils savaient qui il était. Et tous les épisodes où des gens possédés ont été en contact avec Jésus, on a chaque fois soit le démon, soit la horde démon qui dit clairement à Jésus, pourquoi es-tu venu nous troubler avant le temps? Parce qu'ils savent qui il est. Dieu ne veut pas certainement que nous soyons dans cette sphère parce qu'il nous a créés comme des hommes, dans une humanité matérielle. Quand il a créé Adam et Ève, il a mis dans un jardin pour qu'ils vivent là, dans cet espace géographique. Et c'est ça notre héritage. Nous sommes des humains, même si cette sphère, Dieu nous l'a fait sentir, Dieu nous l'a fait vivre. Il y a des moments donnés dans le combat spirituel, certainement, il nous donne les armes pour continuer notre victoire. Ce n'est pas notre quotidien. Notre quotidien, nous sommes des humains. Et justement, parce que Dieu se charge de ce côté que nous ne voyons pas. Parce que dans sa victoire, la Bible dit qu'il a triomphé de l'ennemi, il a livré publiquement un spectacle, et il a été victorieux. Et sa victoire est notre acquis. Nous pouvons être sereins dans ce combat-là. Et c'est ce premier malheur que cette cinquième trompette a sonné que nous avons vu dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous verrons la sixième trompette, le deuxième malheur, l'invasion d'une redoutable armée. Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 13. Je lis dans la version du semeur. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix sortant de quatre cornes de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette, « Libère les quatre anges qui sont enchaînés au bord du fleuve, de ce grand fleuve, l'Euphrate. » On délia donc les quatre anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Ils étaient 200 millions de cavaliers. C'était leur nombre, tel que je l'entendis. Voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers. Ils portaient des cuirasses rouges feu, bleu turquoise, jaune soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions et leurs gueules crachaient du feu, de la fumée et du soufre. Par ces trois fléaux qui sortaient de leurs gueules, le feu, la fumée et le soufre, le tiers de l'humanité fut exterminé.
car le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur gueule et dans leur queue. En effet, leur queue ressemblait à des serpents, elle était pourvue de têtes qui leur servaient à nuire. Verset 20. Mais le reste des hommes, qui avaient survécu à ces fléaux, ne renonçaient pas à leur façon d'agir. Ils ne cessaient pas d'adorer des démons, ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Ils ne renonçaient pas à leur meurtre, à leur pratique magique, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Cette trompette, la sixième, qui est sonnée par cet ange, on est toujours devant l'autel d'or, cet autel devant Dieu. Et c'est Dieu qui ordonne. Et vous savez que quand nous avons vu les sceaux, c'est Jésus qui était seul digne de délier les sceaux du livre, personne d'autre. À chaque vision, on a cette expression, une voix donne un ordre. C'est Dieu qui conduit le cours de l'histoire. Elle provient, cette voix-là, de l'autel. On a déjà vu que cet autel, qu'il y a des anges qui officient devant Dieu. On a vu l'ascensoir et l'image qui nous est donnée au travers de cet ascensoir, c'est la prière des saints, la prière des chrétiens qui monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu y répond. Et d'après ce que nous lisons dans cette portion, ce qui va se passer est comme aussi une réponse de Dieu à la prière des saints. Souvenez-vous que la prière des saints, en tout cas d'une partie des saints, les martyrs, ont dit, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu nous rendre justice? Et Dieu les avait fait patienter en disant que je sais l'heure où je rends justice. N'est-ce pas que la prière du juste est d'une grande efficacité? Le lieu de cette révélation, c'est l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un fleuve qui traverse pas mal de pays, qui existe aujourd'hui. J'avais voulu peut-être vous montrer, si je peux, je vais vous montrer au moins ça. Je vais essayer. Voilà, donc je vais aller jusqu'en bas. Voilà. Donc sur cette carte, vous avez la Turquie, la Syrie, l'Irak. Et l'Euphrate, vous avez ce fleuve qui traverse tout là. Pourquoi c'est important de réaliser que ces choses existent bel et bien? Pour réaliser que les visions que l'apôtre Jean a n'est pas le fruit de son imagination. Il parle des choses que Dieu lui donne et qui existent et qui sont concrètes. Et c'est l'Euphrate que vous avez là, dans une carte plus actuelle. À cette époque-là, ça ne s'appelait pas Turquie, Syrie, Irak. C'était d'autres royaumes. Il est toujours bon de nous rappeler que c'est Jésus qui parle à Jean, c'est lui qui donne cette révélation à Jean. Et que Jean ne sait pas s'il a dit, ou je vais inventer quelque chose, où il a une mauvaise nuit, avec plein de mauvais songes, il a fait le cauchemar, et il s'est réveillé en disant, je vais écrire tous ces cauchemars, pour faire peur à tous ces gens. Mais non. Souvenez-vous que le début de l'Apocalypse est apaisant. C'est Jésus qui se révèle à Jean, et qui lui montre qui il est. Et Jean voit le Christ glorifié. Il tombe à ses pieds. Et Jésus le touche. Lève-toi. C'est moi.
j'ai quelque chose à communiquer à mon peuple pour ce temps présent, mais pour les temps à venir. Et dit que celui qui est sage écoute la révélation que l'agneau donne à Jean. Et il dit à Jean, parle des choses qui vont venir. Donc l'Euphrate est ce fleuve qui existe bel et bien. Pourquoi l'Euphrate? Parce que l'Euphrate dans le passé était habité par deux grandes puissances qui ont menacé Israël par le passé, la Syrie et la Babylone. Et Israël avait toujours l'impression que les dangers les plus imminents venaient du côté de l'Euphrate. Et beaucoup de prophètes ont associé l'invasion d'armées de l'époque à l'Euphrate. Jusqu'aujourd'hui, parce que c'est un grand fleuve, hein. Il y a beaucoup de barrages parce que c'est un fleuve puissant. Et beaucoup de pays dans cette partie du monde utilisent ce fleuve pour produire l'énergie. Et celui qui maîtrisait l'Euphrate était aussi puissant. Et il dit que c'est de l'Euphrate que viendra cette invasion. C'est une vision qui n'est pas rassurante. C'est une armée. Le nombre est impressionnant. Le nombre est impressionnant. 200 millions de soldats. 200 millions de soldats. Il dit, je ne les ai pas comptés. Il dit, c'est le nombre qui m'a été communiqué. C'est le nombre que j'ai entendu. J'en dis, voici le nombre que j'ai entendu. 200 millions de soldats. En fait, on convertit. Parce que là, dans le texte, vous avez 2 milliards. Quand on convertit le milliard en français d'aujourd'hui, ça donne 200 millions. Est-ce que c'est un chiffre à prendre littéralement? Peut-être pas. Peut-être oui. L'idée, c'est que c'est une armée impressionnante qui va déferler. C'est une armée qui va déferler pour tuer un tiers des humains. Un tiers des humains aujourd'hui, on est 7 milliards d'habitants. Si vous faites un tiers de 7 milliards, ça donne à peu près, on est autour de 2 et quelques milliards. On a l'impression que les avertissements de Dieu, au fur et à mesure que les trompettes sonnent, vont crescendo. Dans la vision précédente, le dimanche dernier, il a dit avec insistance, même s'il a laissé faire au diable et à ses démons, vous ne tuez pas les gens, vous les torturez. Parce que ils n'ont pas pouvoir de vie sur même les non-chrétiens. Il n'y a que Dieu qui a pouvoir de vie. Mais ils ont pouvoir de nuire, de détruire, de pousser à l'extrême. Avant, chapitre 8, là aussi, c'était la nature qui avait atteinte et les hommes avaient subi les conséquences de la nature. Mais là, il s'agit directement de prendre des vies humaines. C'est une armée de morts. Quand on regarde la description de cette armée, c'est comme si un grand pays avec une armée moderne, avec tous les armements modernes que les hommes ont l'intelligence de créer. Ça nous rappelle une triste histoire. Quand les États-Unis étaient en guerre contre le Japon, et qu'au bout du bout du bout du bout, les États-Unis voulaient montrer leur capacité de nuisance, ils ont lâché la bombe atomique à Nagasaki, ça n'a pas suffi. Ils l'ont lancé à Hiroshima. Même les aviateurs, les pilotes qui ont lâché ces bombes, avec du recul, ils ont dit, si on savait ce qu'on avait embarqué ce jour-là, on ne serait pas parti dans le ciel. Parce qu'ils ont dit, à l'altitude où on était, on a senti la secousse de cette bombe. Ça devait être énorme. Et pourtant, avant de lâcher cette bombe, les États-Unis l'ont quand même testée sur leur propre territoire, dans le désert, quelque part aux États-Unis. Ils ont su qu'elle était très destructrice. Et pourtant, ils l'ont lâchée. Pas qu'une fois, deux fois. Si vous avez ça à l'idée, vous pouvez comprendre cette vision de l'Apocalypse. La capacité qu'a l'homme de détruire massivement. On est capable de ça. On l'a déjà montré. La Deuxième Guerre mondiale a fait 60 millions de morts. 60 millions de morts. 60 millions de morts. En moins de 4 ans. 60 millions de morts. On a une capacité de nuisance incroyable. Incroyable. Nous sommes allant, en tout cas, on est encore au premier siècle quand Jean a cette vision. Et pourtant, sa vision est déjà terrifiante de la capacité de nuisance qu'ont les hommes. Dieu avertit, il montre que à cause du fait que l'homme se rebelle et qu'il n'entend pas la voix de Dieu, l'Épître aux Romains dit, Dieu l'a livré à sa propre turpitude. Et quand Dieu avertit, comme dans ce texte, malgré la description de cette armée de chevaux et de cavaliers sinistres, cette armée de morts, où il décrit encore cette armée où ces chevaux sont des images de monstres destructeurs, où leur gueule crache du feu, de la fumée, du souffle, donc tout ça pour détruire. On se rappelle que ces images dans l'Ancien Testament nous parlent de Sodome et Gomorre qui ont été détruits par le feu et la fumée. Cette destruction aussi évoque dans cette image l'enfer. L'enfer est souvent donné comme image le feu, n'est-ce pas? Le soufre. Ça nous fait penser à ce qu'on a vu dimanche dernier, de cette armée de sauterelles qui sortait de ce puits avec un nuage de fumée. Ça nous rappelle aussi des images de guerre moderne, comme je l'ai dit, ce champion atomique. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais ils ont fait, puisqu'on était, je ne sais plus, c'était le 4e anniversaire de ce sinistre événement qu'on fêtait, je crois, là, en début d'année ou fin d'année passée. Ils ont interviewé quelques rescapés d'Hiroshima et de Nagasaki. Même quand ils en parlent, ils sont tout. Ils disent, on n'a jamais vu ça dans la vie. Des êtres humains qui étaient là et qui brûlaient vifs. Parce que le souffle de cette bombe, ce n'était pas celle-là qui était le plus dangereux. C'est toute la radioactivité qu'il y a eu après. Le souffle a été capable de balayer toute une ville. Toute une ville. Et cette femme disait, on avait une belle ville. Il a suffi de quelques minutes pour que tout soit détruit. Et des images d'archives sont, ça vous laisse sans voix. Tout a été détruit. Et malgré ça, quand ce genre de choses arrive, on a l'impression d'entendre, bah, c'est rien. On est habitué. toutes les façons, il y a toujours eu des guerres dans notre monde. Les massacres, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, mais il y a toujours eu des massacres dans notre humanité, vous savez. Comme si on disait, rien à voir, séculé. Et pourtant, c'est comme des alertes que Dieu donne aux hommes. C'est comme des avertissements que Dieu donne aux hommes. Mais on s'habitue trop facilement à ces avertissements. Parce qu'on fait l'hypothèse qu'on est toujours capable de faire mieux demain. La Première Guerre mondiale s'est arrêtée en 1918, n'est-ce pas? Ce qu'on appelait la Grande Guerre. Parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de guerre aussi mondiale. Et puis il y a eu cette infamie de la Première Guerre mondiale. Tenez-vous bien. 20 ans après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. On va savoir. Je vous donnerai quelques statistiques de ces deux guerres. Parce que là, c'est de ça qu'il s'agit. L'apôtre Jean, au premier siècle, a une vision de guerre destructrice. Capable d'emporter le tiers de l'humanité. Et qui est comme une interpellation de Dieu à laisser faire les humains pour voir leur capacité de nuisance et pour voir qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'être sages. Et en même temps, c'est un jugement. Mais quand ces choses arrivent, vous savez, il y a eu Première Guerre et Deuxième Guerre. Il y en aura encore peut-être. Il faut se préparer plutôt. Ceux qui disent ça, c'est pas ceux qui ont vécu la guerre. Tous ceux qui ont vécu les deux guerres, ils disent jamais, il faut se préparer à une autre guerre. Parce qu'ils disent toujours, ça a été horrible. On a perdu des amis, on a perdu des êtres chers. Nos vies sont marquées pour toujours. Mais pour ceux qui n'ont pas connu la guerre, quand j'étais responsable des GBU en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, et que ce pays qui m'a vu naître commençait à avoir des sursauts de guerre civile, nos amis des pays qui avaient déjà connu la guerre, comme le Congo, comme le Tchad, comme la Centrafrique, qui étaient aussi des étudiants, qui étaient des immigrés chez nous, nous disaient, chers amis ivoiriens, n'invitez pas la guerre. La guerre, vous ne la connaissez pas. Quand elle est là, elle n'épargne personne. Il n'y a personne qui gagne dans la guerre. Même ceux qui croient gagner, perdent aussi. J'en vois la vision d'un massacre du tiers de l'humanité et qu'il renforce l'impression du cynisme terrifiant. Il y en a eu des massacres dans l'humanité. On se souvient du génocide arménien. On se souvient du génocide au Rwanda. On se souvient de la Shoah. 6 millions. Vous imaginez, l'être humain est capable de construire une chambre comme celle-là, de mettre des gaz mortels, de mettre des hommes et des femmes, des enfants nus, de les jeter dedans et d'ouvrir la pompe à gaz. On est capable de ça. C'est ça. Les camps de concentration, c'était ça. Et ça s'est appelé, ils ont eu le culot. Je m'excuse du terme. Mais c'est parce que c'est choquant. D'appeler ça l'Holocauste. Vous savez ce que c'est que l'Holocauste? C'est un sacrifice d'odeur agréable à Dieu. Où l'animal est brûlé jusqu'au bout.
pour que les êtres humains ne soient pas conduits par là. Et la Bible appelle ça l'Holocauste, un sacrifice d'odeur. Et on a appelé cette infamie l'Holocauste. C'est de ça qu'il s'agit dans ce texte, bien aimé. Quand vous lisez ce texte, restez dans l'histoire de notre humanité, avec tout ce qu'il y a d'horrible dans notre humanité. C'est une vision d'horreur. On ne pouvait pas échapper à ces chevals, à ces chevaux du moins, à ces cavaliers, qui de devant étaient capables de jeter le feu, la fumée, le soufre, et qui de derrière avaient une queue en forme de serpent qui était capable aussi de tuer. On ne pouvait pas échapper, c'est ce que ça veut dire. Cette armée était redoutable, on ne pouvait pas lui résister ni échapper. C'était un jugement dévastateur. Et pourtant, le verset 20 et le verset 21 nous disent quelque chose qui est terrifiant, n'est-ce pas? Que dit ce verset? Ce verset dit, que les hommes qui ont survécu à cette invasion ne se repentit pas. Que les hommes qui ont survécu à cette invasion, qui ont vu cette infamie, qui ont vu ce massacre, qui ont vu cette terreur, cette horreur, ne se sont pas repentis. On peut dire que c'est resté dans la vision de Jean, mais je vous ai rappelé tout à l'heure que malheureusement, notre actualité humaine nous montre que l'homme ne se répand pas facilement, même s'il est auteur de massacres. On voit que l'apôtre Jean, par l'invitation de Jésus, montre que malheureusement, l'homme qui se tourne pas vers Dieu reproduit les mêmes choses. Pharaon, parce que la plupart des fléaux que nous voyons là nous rappellent les plaies d'Égypte, devant toutes les plaies, Pharaon ne s'est pas repenti. Lui, c'était différent par contre, parce que la Bible dit que Dieu l'a endurci pour le juger, parce qu'il a traité le peuple d'Israël en esclavage pendant 4 siècles et qu'il avait un esclavage. Est-ce qu'il y a un esclavage doux? Il n'y a pas d'esclavage doux. Les civilisations s'accommodent parfois des choses. Et c'est quand c'est poussé à l'extrême qu'on dit, oh, le début même n'était pas bon. On n'aurait même pas dû commencer. Souvenez comment Moïse est né. Moïse est né par la rébellion de sa mère. Parce qu'au moment de la naissance de Moïse, Pharaon avait pris un décret pour que tous les enfants, toutes les femmes qui étaient enceintes, il n'y avait pas d'échographie à l'époque. On pouvait pas savoir si c'était un garçon ou une fille. Mais le décret, c'était que tout enfant qui naîtrait mal devait être mis à mort. Donc, tous les enfants, tous les bébés qui naissaient mal étaient tués. Infanticide. Officiel. Décrété par le roi soleil, Pharaon. Le dieu Ra. C'est ça que ça veut dire. C'est le dieu soleil. Et la mère de Moïse se rebelle. Mais combien d'autres sont? Et donc Dieu punit Pharaon en endurcissant son cœur. Et toutes les plaies n'ont pas fait fléchir. Même quand son fils aîné est mort, ça a plutôt contribué à sa rage. Au point où il a englouti lui-même son armée. Alors quand on dit Pharaon, on dit c'est loin, bien sûr. Ça remonte même avant Jésus-Christ. Mais si je vous dis qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, qu'après la Première Guerre mondiale, les hommes ont dit, oh, c'est pas possible. On est des êtres intelligents, rationnels. 1900, 18, c'est la fin de la première guerre. On est... C'est quel siècle, le 1900? C'est le 20e siècle. Donc, on est quand même quelques siècles après le siècle de lumière, où l'homme est monté sur la quintessence de sa rationalité, où il a dit qu'on est capable de faire le bien. N'est-ce pas? Et là, l'humanité a réalisé que non. Et si vous lisez l'histoire de ce conflit, c'est parti. C'est parti dans un conflit entre deux pays. Et puis, ça s'est embrassé. Et tout le monde a été contaminé. Pareil pour cette résurgence de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont créé ce qu'on appelait la Société des Nations. Pour dire, voilà, faut qu'on mette quelque chose en place. Le monde s'est pas repenti. Le monde a dit, on va être encore plus intelligent pour éviter. Donc, le monde n'a pas compris qu'il s'agissait pas juste d'organisation humaine, mais il s'agissait du cœur. Jésus dit que les mauvaises choses ne viennent pas de l'intelligence, ne viennent pas de l'organisation, mais ça vient du cœur de l'homme, ça vient de ce qu'il est. L'homme est mauvais à cause du péché. Qui connaît le cœur de l'homme? Il est tortueux par-dessus tout. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Et il est le seul capable de le tourner en bien. Et nous, on dit, ah ben, on est capable nous-mêmes. Suffit de mieux s'organiser. Suffit de mettre des choses en place. C'est déjà bien. Mais il n'y a pas que ça. Donc, ils ont mis cette Société des Nations. Et malgré ça, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont dit, soyons plus intelligents. La Société des Nations, faut l'évaluer. Ce qui n'a pas marché, on va faire mieux. Et c'est le président américain, à l'époque, qui a lancé un deuxième mouvement et ça a donné l'Organisation des Nations Unies. Ça a donné l'ONU. Et dans le préambule de cette charte, il est écrit, peut-être que je vais vous l'afficher, comme ça, on voit ensemble ce que je dis et pour que ça nous parle. L'Apocalypse est là pour nous parler, pas juste pour nous donner une vision de quelqu'un qui a eu un rêve incompréhensible, non. Pardon. C'est la page 7, voilà, je suis là. Donc ça, c'est le préambule. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau, ils ont utilisé le même terme que dans l'Apocalypse. L'Apocalypse appelle ça des fléaux. Pour préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui deux fois, en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, a proclamé à nouveau notre foi, pas en Dieu, notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer des conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources de droit international, à favoriser le progrès social, à instaurer des meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, et à ses fins, à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre, dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter les principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun. Donc quand même un peu. À recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social et tous les peuples avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins. En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco et munis de plein pouvoir reconnu en bonne et due forme, ont adopté la présente charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. C'est un beau texte, hein, qui bien sûr aide beaucoup à la paix dans le monde. C'est pas faux. Mais ça, c'est pas la repentance. Aucun moment, on ne parle de Dieu. Aucun moment, on ne dit, c'est nos péchés. Nous devons accepter de revenir
à la parole de Dieu. À aucun moment.
Et donc, quand on lit ça, on peut voir pourquoi l'apôtre Jean a cette vision en disant, dans le verset 21, « Ceux qui ont survécu à ce fléau de cette invasion ne se repentit pas. » Ne se repentit pas. Vous savez, on peut avoir du remords sans se repentir. Je regrette quelque chose et ça reste juste au niveau du regret. Le regret, quand il est repentance, il m'amène à, en tout cas selon la pensée biblique, à dire, mais pourquoi j'ai du remords? Ben, c'est parce que c'est quelque chose que Dieu veut pas. Donc si je l'ai fait et que j'ai du remords, celui à qui d'abord je dois me retourner, c'est Dieu. Et ensuite lui, sa parole me donnera la force de retourner pour, si je peux, corriger, demander pardon. Demander pardon, de toute façon, c'est nécessaire. Mais réparer, parfois, on ne peut pas. La repentance, c'est ça. Ceux qui survécurent ne se repentirent pas. Cet avertissement est là pour pousser les incroyants à la repentance. Non seulement les incroyants, mais les membres d'église. Parce que, que nous dit ce texte? Ce texte dit qu'ils retournaient à leur idolâtrie, ils retournaient à leur immoralité, ils retournaient à leur malhonnêteté. Donc, il avertit aussi les enfants de Dieu quelque part. Si tu es un enfant de Dieu, peux-tu être idolâtre? On dit non. C'est vrai, hein? Parce que notre Dieu, c'est l'Éternel. On n'a pas autre Dieu que lui. Et il y a un théologien américain qui a fait tout un écrit sur ce qu'il appelle les idolâtries modernes et qui demande à tous les chrétiens de bien s'y sonder. Vous savez, l'idole, c'est quoi? L'idole, c'est celui à qui je donne la première place. C'est ça, l'idole. Donc, je peux bien dire, Dieu est mon Dieu, mais est-ce que vraiment, Dieu a la première place dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis? Si quelque chose d'autre a la première place dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, on a cette façon assez légère, peut-être c'est noble, hein, j'en sais rien, mais... Je pense qu'on est tous des humains, donc on a droit à ça. Quand on était jeune et qu'on connaissait pas Dieu, nos idoles, c'était des vedettes, des stars de télé. On s'habillait comme eux, on essayait de parler comme eux, même de marcher comme eux. C'était un peu... Mais c'était ça, parce qu'ils avaient la première place. Qui a la première place dans ta vie? C'est comme ça que tu peux tester si Dieu est toujours celui qui est ton Dieu, si autre chose n'a pas pris la place de Dieu, si tu n'as pas d'autres idoles. Mais il parle aussi de l'immoralité. L'immoralité, on la connaît, c'est le fruit de la chair. Donc, Jean, dans cette vision, il interpelle aussi le chrétien. Est-ce que le chrétien que je suis, est-ce que le chrétien que tu es, devant cet avertissement de Dieu, tu continues de te laisser conduire plus par les œuvres de la chair que par les fruits de l'esprit? Si c'est le cas, attention. Si c'est le cas, attention, parce que dans le texte de l'apôtre Paul, il dit clairement, ceux qui pratiquent de telles choses n'irriteront pas le royaume de Dieu. Et l'Apocalypse va le dire plus tard. Chapitre 20, chapitre... L'Apocalypse même est très fort. Il dit, dehors les menteurs. Parce que même le mensonge, qui est une habitude, vous savez pourquoi le mensonge, qui est une habitude, nous disqualifie? Parce que Jésus dit clairement que le père du mensonge, c'est le diable. Donc quelqu'un qui vit dans le mensonge, en fait, il s'est mis sous l'autorité de celui qui est le père du mensonge. C'est pour ça que c'est grave. De vivre dans le mensonge. De cultiver le mensonge. Parce qu'on invite clairement le diable à être notre autorité. Parce que Jésus dit, il vient, mais il n'a rien à moi. Il ne peut pas me réclamer quelque chose que je n'ai pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. L'immoralité, la magie, l'idolâtrie, la malhonnêteté, toutes ces choses, les hommes continuent à le vivre, malgré le fait qu'il y ait eu deux guerres, malgré le fait qu'il y a tout ce que nous voyons. Alors, terminons cette invitation. Comme toujours, ce livre est là pour nous avertir. Quelquefois, on dit, faut pas que ce livre nous fasse peur. Oui, faut pas qu'il nous fasse peur au point d'être terrifié, titanisé à rien faire. C'est pas ça. Mais qu'il nous reste alerte. Parce que c'est des vrais dangers. Qui de nous veut vivre dans un pays en guerre? Moi, j'y ai vécu. Il n'y a pas d'avenir. Vous vous levez le matin avec la boule au ventre parce que vous ne savez pas comment la journée va se terminer. Vous entendez des crépitements d'âme en longueur de journée. Vous êtes traumatisé. Au point même quand ça finit, les mois qui suivent, il suffit qu'un pétard. Et c'est arrivé trop régulièrement après la guerre que des jeunes qui jouent à des pétards lancent le pétard. Mais c'est la débandade, parce qu'on croit encore que c'est la guerre. Au point où, dans mon contexte, le gouvernement était obligé de prendre un arrêté pour interdire les pétards pendant toute la période de Noël et de janvier, parce que ça traumatisait encore les gens. Il suffit qu'une roue de pneus de voiture crève avec un bruit assourdissant, mais c'est la débandade, parce que les gens croient que la guerre a repris. Ça traumatise. Et c'est un avertissement là. On ne peut pas s'accommoder de ces choses. Alors souvent on dit, est-ce que la guerre c'est un jugement de Dieu? Moi je vous fais trois hypothèses. Si les guerres mondiales sont l'œuvre d'un complot mondial, parce qu'aujourd'hui les théories du complot, il y en a plein sur la toile. Qu'est-ce que cela montre? Si les guerres mondiales sont l'œuvre d'un complot humain, ça montre ce que Dieu dit, c'est que l'être humain est tellement tordu qu'il est assimilé au diable. Parce que c'est le diable qui est capable de faire ça. C'est le diable qui est capable de mettre un projet pour détruire 60 millions de vies humaines. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc si c'est un complot humain, ça montre bien que l'humain a besoin d'être sauvé par Jésus-Christ. Si on dit, la deuxième hypothèse, si on dit, c'est la nature humaine qui est comme ça. C'est pour ça qu'il y a les guerres. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire en ce moment-là? Ça veut dire que c'est une nature humaine qui est polluée, qu'on ne connaît pas assez, qui est malmenée, qui est mal manipulée par nous-mêmes. Alors cela veut dire qu'on est fragile vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'on est capable d'être la veille au soir en paix et le lendemain matin de prendre les armes les uns contre les autres. Ça veut dire qu'on est bien tordu. Et qu'on a besoin d'être redressé. Et que c'est pas nos structures qui nous redressent. C'est Dieu qui nous redresse. Parce que c'est lui qui nous donne ce cœur redressé. Si on dit c'est le jugement de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons un peu les statistiques. La Seconde Guerre mondiale. Je suis un peu long parce que je finis une série avec vous ce matin. Mais j'aimerais vraiment partager ces choses pour que nous nous rendions compte ce que nous sommes. Dans quel monde nous sommes? Je suis pas un pessimiste de nature, mais je pense que quand Dieu nous parle, c'est aussi bien qu'on dise les choses. Après, c'est lui qui nous donne sa paix et son espérance, n'est-ce pas? Donc si on dit que c'est Dieu qui est l'auteur et que c'est un jugement de Dieu, regardez les statistiques. La Seconde Guerre mondiale est montrée comme le conflit le plus meurtrier de l'histoire, jusqu'à preuve du contraire. 60 millions de morts, soit 2,5% de la population. En ce moment-là, on était 2 milliards d'habitants sur la Terre. Mais ça fait pas un tiers des humains. Parce que le texte nous dit que si c'est Dieu vraiment qui juge, c'est un tiers des humains qui vont mourir. Là, on est à 0, quelque chose pour cent. Donc, ça veut dire, même si c'est lui, c'est encore une grâce. Parce qu'il ne la laisse pas, il ne laisse pas ce jugement être aussi terrible comme on le voit dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Première guerre mondiale, 1 800 000 morts, soit 1,6% de la population mondiale. C'est des statistiques macabres. On est obligé de comparer. C'est terrifiant que de faire ça. Voilà ce que nous sommes capables de faire, nous les êtres humains. Mais ce n'est même pas un tiers. Ça veut dire que Dieu reste un Dieu de grâce, même si c'est lui qui juge, dans cette troisième hypothèse. Ça veut dire qu'il a préservé 98% des humains de son jugement, quand même. Si ça, ça ne veut pas dire qu'il est un Dieu de grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que la Bible dit que tous sont péchés et que tous sont privés de la gloire de Dieu, sans exception. Et pourtant, même quand il juge avec modération. Je termine par celui-ci. J'ai hésité, mais je me suis dit, tant qu'à faire ça, pour que nous puissions réaliser dans quelles conditions nous sommes. Si le coronavirus est l'œuvre d'un complot mondial, comme on l'entend dire, et ça a été infusé à profusion jusqu'aujourd'hui, bah, si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a un groupe d'hommes qui ont dit on va tuer c'est démoniaque. Il n'y a pas d'autre nom. C'est satanique. Il n'y a pas d'autre nom. Donc, qui ont fabriqué un virus et qui ont dit ce virus-là, on sait, ah bah, qui va tuer, sans exception. Et en plus, il va emporter nos aînés, nos parents, parce que c'est eux que ça touche le plus. En plus, ça va toucher tous ceux qui sont déjà malades et qui souffrent déjà de maladies chroniques, donc qui sont déjà en souffrance. On va mettre fin à leur vie. C'est ça que ça veut dire si c'est un complot. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait ça. Mais ces gens-là, donc ils sont des alliés de Satan, non? Donc Dieu montre qu'on préfère, dans certaines situations, s'allier au diable qu'à lui. Donc est-ce que c'est lui qui est le fautif? Non. Si on dit que c'est la nature, que c'est une nature polluée, mal connue, mal menée, manipulée, alors cela nous montre notre fragilité vis-à-vis de la nature. Et ça nous invite à quoi? À nous en remettre à celui qui connaît la nature. Parce que c'est lui qui l'a créée. Il s'appelle Dieu. C'est à lui qu'il faut s'en remettre. Parce que même l'intelligence, la science, viennent de lui. Bien-aimé. Par contre, si on dit que c'est un jugement de Dieu, là encore, je vous donne des statistiques. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 62 millions de cas, 62 millions de contaminations. Il y a 39 millions de gens qui sont guéris et 1 449 décès. Là encore, c'est des statistiques macabres. Ça veut dire que 0,02% de la population de 7 milliards d'habitants a été tuée par le coronavirus. Ça fait beaucoup de gens. 1 million de gens morts de corona, ça fait beaucoup. Mais par rapport à ce que Dieu prédit là, c'est pas un tiers ça. Un tiers de 7 milliards, on a dit sa voisine, elle est 2 milliards. Ça veut dire que là encore, même si c'est lui qui juge, il juge avec magnanimité. Parce que les 99,88% de la population sont préservés par lui. Donc parfois, on ne fait pas le bon procès à Dieu parce qu'on prend toujours le côté négatif, mais on ne voit pas tout le côté positif dans lequel il nous préserve. On voit toujours le petit bout. On dit, ah ben votre Dieu, c'est un Dieu tueur. Ben non, c'est pas lui qui nous tue. C'est nous-mêmes qui nous tuons. Nous sommes les propres causes de notre propre malheur. Parce qu'on ne se répand pas. Parce qu'on ne revient pas à Dieu. Parce qu'on a toujours la capacité de croire qu'on est capable. Et même quand Dieu fait la démonstration que nous sommes impuissants, on dit, ça va aller. Ben, donnons-nous quelques mois, vous allez voir. Ça sera un mauvais souvenir. Vous savez, ceux qui ont connu ce qu'on appelle la peste noire, 16e siècle, ceux qui ont connu la grippe, qu'on appelle la grippe espagnole, ils n'ont pas oublié. Ils s'en souviennent toujours. Et on ne va pas oublier cet épisode, cette période. On va peut-être la garder dans un coin de notre cerveau, mais on n'aura pas oublié parce que ça nous a impacté. Et si on ne s'en sait pas pour nous rapprocher de Dieu, on n'est pas sage. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Car homme, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Aujourd'hui t'appartient, mais demain appartient à Dieu. Prions. Te bénissons, Seigneur. J'avoue, j'ai été lent. Mais j'avais voulu donner ces éléments à mes frères. Dans cette fin de série, de cet enseignement sur l'Apocalypse, j'avais à cœur de leur donner pleinement ces éléments qui concluent une partie de cette vision que tu as donnée à Jean, ton serviteur. Puisse l'Église être sage. Nous avons jeûné pendant 3 jeudis. Nous avons dit que nous voulons nous humilier devant toi, pour revenir à toi, pour être des chrétiens, des chrétiennes qui continuent à te connaître, à vivre comme toi tu veux, pour que nos vies puissent être un impact aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous avons prié pour que notre église de Créteil, l'église en France, reste une église éveillée, pleinement dans sa mission. Donne-nous de garder cette flamme, d'annoncer l'évangile, même dans ce qu'elle a de plus difficile, mais aussi beaucoup dans ce qu'elle a comme espérance, notre Dieu. Et puis enfin, nous t'avons prié pendant ces 3 jeudis. Nous avons invoqué ta grâce sur notre monde. Nous avons demandé que Saint-Esprit, tu touches les gens pour qu'ils se repentent, pour qu'ils reviennent à toi. Merci de nous avoir mis cela à cœur. Et donne-nous de continuer d'être dans cette vision. Au nom de Jésus. Amen.